Nous arrivons maintenant, je vous rappelle, donc juste ce chemin pour vous dire qu'on arrive finalement à Copernic. Et c'est vraiment de ça qu'on voulait parler. Alors, une fois là à Copernic, il est né en Pologne, mais à l'époque il n'y avait pas de Pologne, hein, il y avait le Sacro Roman Impero, je ne sais pas comment on dit en français le sac. Voilà. Et donc, il est orphelin, donc il est élevé par son oncle, avec ses frères, et son oncle était une personne assez riche et assez puissante. Quand Nicolas aura 20 ans, si vous voulez, son évêque deviendra évêque, et puis un évêque n'était pas qu'un évêque, il avait toute une administration, il avait toute une région à gérer. Donc, son oncle l'envoie à l'université. Pour bien qu'il apprenne tout ce qu'il faut pour devenir, à son tour, évêque. Donc il va à l'université à Cracovie, il termine pas, il passe à Bologne, il y passe, pendant qu'il est à Bologne, son oncle lui obtient une charge de chanoine qui était rétribuée, mais donc pour laquelle lui il n'avait pas grand chose à faire, donc il reste pratiquement 5 ans à Bologne. Pendant ces 5 ans, il y avait le jubilé de 1500, donc il est allé à Rome au jubilé, il a donné quelques conférences. Puis, finalement, il doit quand même rentrer là où on le paye. Alors il dit, mais il n'a toujours pas de diplôme, alors il dit, écoutez, moi je voudrais faire encore 2 ans de médecine à Padoue. On lui dit d'accord, il va à Padoue. Il rencontre des gens intéressants, parce qu'il y avait de bons astronomes, de bons mathématiciens, aussi bien à Bologne qu'à Padoue. Et puis, comme il n'a toujours pas de diplôme, il fait ce que tout le monde fait encore de nos jours, il va faire à la Ferrara, c'est une petite université qui se trouve entre Bologne et Padoue, et quand on a des problèmes pour obtenir son diplôme à Bologne ou à Padoue, on va faire à Ferrara. Et il rentre. Alors, juste pour rappeler qu'à l'université, on recevait une formation très accomplie. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on est spécialisé tout de suite, vous voyez. On étudiait tout, et ensuite, seulement au moment du diplôme, on devenait médecin ou théologien, etc. Qu'est-ce qu'il fait, Copernic? Il rentre chez lui, et il suit son oncle pendant quelques années dans ses voyages, dans ses charges, etc. Et puis c'est pas fait pour lui, donc il rentre à Frombork, le petit patelin où il avait sa charge et sa tranquillité, et il y passe 40 ans, tout seul, sans parler à personne et sans écrire quoi que ce soit. Il avait juste vers la trentaine, envoyait une petite lettre à un ami pour lui dire qu'il avait en tête le nouveau système du monde, etc. Cette lettre a été perdue pendant 300 ans, on l'a retrouvée. Mais entre-temps, à l'époque, on en avait fait des copies, donc elle avait circulé un peu partout, mais c'était juste une information assez vague, si vous voulez. Et sur ces entrefaits, il y a un jeune mathématicien allemand, Reticus, qui, ayant entendu parler de M. Copernic, se rend chez lui. Et au bout de 10 semaines, il a à peu près compris les nouvelles théories de Copernic. Donc, il écrit aussi sous forme de lettres à un ami, mais cette fois c'était imprimé, donc ça a eu une circulation assez large. Il écrit une petite œuvre qui s'appelle Narratio Prima, c'est-à-dire un avant-goût, si vous voulez, hein, où il décrit les théories auxquelles Copernic travaillait. Et il est assez astucieux pour ne pas dire tout de suite la Terre tourne autour d'elle-même, tourne autour du Soleil, etc. Il commence en disant, si on prend ce chemin dans lequel on imaginerait que la Terre tourne autour du Soleil, alors la théorie du Soleil s'améliore immédiatement. Pourquoi? Imaginez donc le gros Soleil au milieu et la petite Terre qui tourne autour. La Terre, elle ne fait pas que tourner autour du Soleil, elle a beaucoup de mouvements, si vous voulez, c'est une espèce de papillon. Hein. Et donc, si on veut décrire les mouvements du soleil en restant assis sur la Terre, qu'on croit être immobile, mais qui en réalité continue de papillonner, eh bien, on voit le soleil qui va de tous les côtés. Donc, rien que la théorie du soleil était très compliquée, très difficile à faire. Et comme c'était l'époque à peu près où on préparait la réforme du calendrier, Reticus savait qu'en parlant, parce que mouvement du soleil veut dire calendrier automatiquement, durée de l'année, des saisons, etc. Donc il essaye d'enrober la chose de façon à qu'on voit tout de suite les avantages avant les désavantages. Néanmoins, il n'est pas fou, la première édition de son bouquin, il ne signe pas. Anonyme. Pas ce nom, bon, les réactions ne sont pas trop violentes, donc il refait une édition et il signe cette fois. Mais, c'est pas tout, c'est-à-dire qu'entre-temps, Copernic arrivait à un âge avancé, donc il fallait que Copernic écrive ce qu'il avait obtenu jusqu'alors. Et Copernic ne voulait pas écrire. Alors on a dit qu'il ne voulait pas écrire parce qu'il avait peur de la hiérarchie de l'Église. C'est pas vrai. Copernic était trop bon mathématicien. D'ailleurs, la différence, si vous voulez, pourquoi je parle de Copernic au lieu de parler de Giordano Bruno ou de Nicolas Oresme, etc. Parce que avant lui, les gens s'étaient bornés à affirmer que la Terre tourne autour du Soleil. Mais Copernic, il avait fait un développement mathématique jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à produire après des tables astronomiques. Et ça lui a donné un travail fou. Et Copernic savait très bien que son système n'était pas parfait. Parce qu'il n'arrivait pas. Il était le pauvre, il était fourvoyé par une chose et l'autre. Par exemple, il avait des données qui étaient fausses, donc pour rendre compte de ces variations, il avait dû inventer des mouvements de la Terre qui en réalité n'existent pas. Mais comme il devait se baser sur les données qu'il avait sous la main, il était obligé de dire « Ah, mais la Terre est aussi comme ça, vous voyez ?» Donc il était très conscient que à une discussion sérieuse, son système n'aurait pas tenu. Finalement, quand son œuvre est publiée, je pense que tout le monde sait qu'il y a une légende qui dit qu'on lui a présenté son bouquet imprimé sur le lit où il était en train de mourir, donc en 1543. Et au dernier moment, un ami de Reticus était déjà parti, donc il avait laissé un ami de suivre la publication de ce livre jusqu'au bout. Un ami de Reticus avait mis une préface en disant cette théorie, c'est une théorie de commodité, donc ça ne veut pas vraiment dire que le système du monde soit comme ça. Mais quand on regarde la préface de Copernic, elle ne sait pas ça du tout. Elle est aussi dans le bouquin. Lui s'adresse directement au pape et lui dit votre sainteté, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il n'avait pas peur du tout, d'autant plus que, à l'époque, si vous voulez, les conciles de Trente n'avaient pas encore eu lieu. C'est après que les choses s'enveniment entre les protestants et les catholiques et que l'Église commence à être très, très raide, si vous voulez, sur toute théorie qui pourrait s'écarter un peu de la ligne droite. Donc, si on veut parler des qualités de l'œuvre de Copernic, bon, c'est la première tentative sérieuse d'examiner un système différent de celui qu'on possédait depuis trop longtemps, et donc de comprendre quelque chose de la façon dont les choses pouvaient se passer. Comme il réalise que le mouvement de la Terre, si vous voulez, est un peu incertain, au lieu de référer toutes les mesures d'étoiles, comme on avait fait jusque-là, au plan de l'écliptique, c'est-à-dire les plans décrits par l'orbite de la Terre dans le ciel, il se réfère aux étoiles fixes. Et à partir de là, on n'a plus besoin comme avant. À chaque fois où il y avait une mesure, il fallait savoir à quelle époque, parce que le plan de l'écliptique, en plus, il dérape, si vous voulez, il tourne comme ça. Donc, à chaque fois où il y avait une mesure, il fallait se référer à la date précise et tenir compte de toutes les corrections qu'il y avait. Alors que si on se réfère aux étoiles, il n'y a plus rien à faire. En plus, on arrive finalement à comprendre pourquoi les différentes planètes avaient des périodes différentes, des périodes de révolution, si vous voulez. Vous voyez, en partant de Mercure, Vénus, etc., la période est de 88 jours, 240 jours, 365 jours, 2 ans, etc. Finalement, on comprenait pourquoi, parce que ces planètes avaient des orbites plus longues à parcourir. Donc, ça c'était compatible avec leur position. Mais il y avait des points faibles, comme j'ai déjà mentionné. Déjà, au départ, Copernic ne fait pas de raisonnement scientifique. Il commence en disant, Dieu est certainement un bon mathématicien. Donc, en tant que bon mathématicien, il ne peut qu'utiliser des lignes simples, droites et cercles. Et au fait, ce que Copernic reprochait au système de Ptolémée, géocentrique, ce n'était pas d'être devant la Terre au centre, c'était d'utiliser des mouvements qui n'étaient pas circulaires uniformes. Parce que Ptolémée, si vous voulez, pour faire rentrer les choses, il avait introduit des vitesses pas uniformes sur les épicycles. Et pour finir, son schéma, à la fin, si vous voulez, quand il a publié, son schéma n'était pas du tout plus simple. Il avait plus de sphères, plus de cercles que Ptolémée. En plus, il avait conservé l'idée des sphères corporelles, c'est-à-dire ces sphères étaient physiques, n'étaient pas simplement des trajectoires géométriques. Et quand, à partir de là, on essaye de faire des tables astronomiques, c'était un peu le désastre. Heureusement, pour sa théorie, une quinzaine d'années après, il y a l'empereur, donc Somme, demande à un astronome Rein de produire de nouvelles tables astronomiques. Et ce monsieur Rein, tout en ne croyant pas à la théorie de Copernic, il l'utilise pour... Il plonge dedans, il trouve un tas d'erreurs, il les corrige, etc. Et il arrive à produire des tables qui sont meilleures, des tables alphonsines. Alors, les tables alphonsines, on en a parlé la dernière fois, c'était le roi Alphonse de Castille, dit le roi El Sabio, dit le roi Sage, qui avait remanié, lui, des tables astronomiques arabes. Donc, vous voyez, depuis combien de temps en Europe on ne savait plus faire de tables astronomiques. À partir d'ici, on devra peut-être venir utiliser les mots de parallaxe. Alors, on va faire une petite illustration pour voir que ce n'est pas quelque chose de bien compliqué. Vous prenez l'autoroute Turin-Milan. Pourquoi l'autoroute Turin-Milan? Parce que d'un côté, c'est une plaine parfaite, de l'autre côté, l'autoroute est droite. Alors, vous n'en trouverez pas tellement en France. Et vous regardez, s'il n'y a pas les brouillards, ce qui est quand même assez fréquent, alors, très au loin, on voit les Alpes. Et imaginons, vous voyez une montagne particulièrement plus haute que les autres, voyez. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez avec votre voiture, bon, au bout de 10 minutes, pas au bout de quelques heures, votre montagne, vous la voyez toujours dans la même direction. D'accord? Elle ne bouge pas tellement. Elle est à 300-400 km, donc elle ne bouge pas tellement. En revanche, si à côté de l'autoroute, il y a un clocher d'un petit village, vous voyez qu'en deux positions différentes de votre voiture, les clochers, vous les voyez sous des angles différents. Mettons, il y a un moment où vous les voyez un peu sur l'avant, et puis un peu plus loin, vous les voyez un peu sur l'arrière. Ce qui fait que si vous mesurez les deux angles, si vous voulez, que vous voyez dans les deux positions de la voiture, entre la montagne et les clochers, avec ces deux angles-là, vous pouvez estimer la distance du clocher. Bon, ça, c'est un petit procédé géométrique, mais en somme, ça se fait. Voilà. Ce qu'on appelle une base de mesure, donc la distance parcourue, et les deux angles que vous pouvez mesurer. Évidemment, en fonction de la distance du clocher, il faut prendre une base qui soit ni trop petite, ni trop grande. Comme ça, on va s'en apercevoir assez vite. Et vous avez vu certainement dans des vieux films de guerre, les films de guerre des années 50, 60, etc., sur les navires allemands, il y avait toujours une espèce de jumelle qui avait cette forme. Voilà. Alors, c'est le même procédé, c'est-à-dire, vous avez un petit bouton, et pour regarder un navire éloigné, vous voyez, vous donnez un angle aux deux jumelles que vous avez de chaque côté, et à partir de cet angle-là, on peut avoir une échelle marquée directement en distance. Donc, autant pour la parallaxe. Et on passe maintenant à Tycho Brahe, étant donné que c'est lui qui suit Copernic aussi bien logiquement que chronologiquement. Bon, Tycho Brahe était un noble de noble famille, et son oncle, il y a toujours un oncle, son oncle a sauvé le roi de la noyade. Il avait un crétin de cochon, hein, mais c'est Tycho Brahe, au point qu'il a perdu le nez en duel. On l'a coupé, donc on l'appelait l'homme au nez d'argent. Mais c'était quand même un génie. Oui, il a 13 ans, il va à l'université, et comme il veut s'intéresser à l'astronomie, et puis son père ou son oncle ne veut pas, parce que dès qu'il y a des biens, etc., on veut toujours qu'on administre ou qu'on fasse notre carrière, on lui met à côté, on lui met un jeune instituteur pour l'empêcher de s'occuper d'astronomie. Mais rien n'y fait, lui il achète tous les livres qu'il trouve, il s'achète des petits instruments. Et puis, il commence à construire des instruments à lui. Et il construit des instruments incroyables, des instruments qui faisaient, comme on avait vu dans le cas des Arabes, des instruments qui faisaient, je sais pas moi, 10 à 20 mètres de côté. Il y a un cadran pour le mettre sur pied, il a fallu 15 hommes pour, rien que pour l'installer, vous voyez. Et tout ça, et donc, il connaît tous les astronomes de l'époque, il était à Auguste quand il a construit ces instruments énormes, il n'avait que 19 ans. Sa renommée était telle que le roi de Danemark et Norvège lui propose une île entière pour qu'il puisse s'installer et conduire ses recherches. Alors, lui, il accepte cette île de Hven, et il va construire un observatoire, qu'on va voir tout à l'heure. Je m'arrête un instant sur le fait que, avant même de rentrer au Danemark, il a publié un livre sur une étoile nouvelle. Jusque-là, on ne les voyait pas, les nouvelles étoiles. Elles y étaient, les comètes. Elles y étaient, mais on ne les voyait pas, parce que c'était dans le ciel parfait d'Aristote, donc rien ne pouvait se passer dans cette zone-là. Alors lui, il n'en tire pas de conclusion tout de suite, c'est-à-dire, il ne va pas dire tout de suite Aristote avait tort, mais il suit cette étoile, il la mesure pendant plusieurs mois, jusqu'à dire c'est une étoile, c'est-à-dire elle a toujours la même position dans l'espace. Donc, si vous voulez, c'est la première rupture officielle et indiscutable, parce que quand il décrivait les mesures qu'il faisait, personne ne pouvait dire vous vous êtes trompé. Hein. Alors, sur son île, il construit un château, ou presque une petite ville, qui s'appelle Uraniborg, et où il travaille pendant de belles années. À un moment donné, il observe des comètes, et toujours avec sa méthode parce que Il avait déjà expliqué aux autres astronomes que quand on fait des observations, d'abord il faut en faire beaucoup, il faut en faire tous les jours. Ensuite, si on change d'instrument, il faut refaire des mesures déjà faites pour qu'on puisse faire recouper entre un instrument et l'autre. Donc, il mesure ces comètes et qu'est-ce qu'il trouve? Ce qui était très logique, c'est-à-dire que les comètes s'en vont à des distances qui sont bien au-delà de la distance de la Lune, etc. Du coup, les sphères corporelles n'existent plus. Si vous avez un corps qui arrive de loin, qui passe à peu près à côté du soleil et qui s'en va, automatiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de parois ou de sphères matérielles comme on pensait. Quand le roi Frédéric II, qui lui avait alloué cette île, meurt, alors son héritier ne s'entend plus avec Tycho, mais il faut dire que Tycho avait un roman, comme je vous le dis, il traitait vraiment très mal même les paysans. Donc il s'en va avec une caravane qui transporte tout son équipement, et il est invité par le roi de... ou l'empereur, si vous voulez, de l'Empire, etc., etc. Et il va s'installer à Prague, un peu à l'extérieur de Prague. Il choisit un château parmi ceux qui lui sont proposés. Il s'installe là et il continue ses mesures. Et l'histoire se répète, c'est-à-dire que pendant qu'il est quand même âgé, il reçoit une visite d'un jeune astronome, Kepler. Kepler arrive en 1600 et Tycho Brahe meurt en 1601. Donc vous voyez, c'est vraiment juste. Et quand Kepler arrive, alors vous voyez, Kepler, on en parlera dans la prochaine fois, mais Kepler c'était un jeune, puis c'était encore un génie, un calculateur fou. Il arrive et il trouve que Tycho Brahe, avec son assistant Longomontanus, était en train d'essayer de prendre toutes les données de Mars, donc tous les relèvements de Mars, et de construire une orbite. Et Kepler, ça l'intéresse, ce travail. Et il dit, écoute, mais si tu me donnes ça, moi, en 8 jours, je te fais l'orbite. Ben, ça lui a pris 8 ans. L'autre, il était mort depuis belle durée. Il a dû recommencer les calculs jusqu'à 90 fois. Non, mais pardon, 70 fois. Et pourquoi il a tellement calculé? Parce que, ayant travaillé, même si pendant un temps court, avec Tycho Brahe, il avait une telle confiance dans la précision des mesures de Brahe, que quand au bout de son travail, il avait construit une orbite et il avait un écart de 4 minutes, en sachant que la précision était de 2 minutes, lui, il jetait tout, il recommençait. Alors, avant de mourir, c'est-à-dire avant d'accepter déjà la visite de Kepler, Tycho Brahe lui a dit, d'accord, tu viens, mais tu laisses de côté tes lubies, parce qu'on verra en parlant de Kepler qu'il en avait, et tu t'occupes des données, tu me fais un travail sérieux, et si possible, tu vas essayer de construire des orbites suivant les chemins que je préfère. Les chemins que Tycho Brahe préférait étaient un chemin qu'on appelle géo-héliocentrique. C'est un nom pas sympathique, si vous voulez, mais dans ce chemin, la Terre est immobile, la Lune et le Soleil tournent autour de la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Alors, ça a l'air un peu bizarre, mais en réalité, c'est un système parfait. Parce qu'imaginez que vous ayez un petit mécanisme à ressort posé sur une table avec le système solaire. Alors, vous avez le Soleil au centre, puis toutes les autres planètes qui tournent. Maintenant, vous prenez une épingle et vous clouez la Terre. Vous l'immobilisez. Ben, le résultat est exactement celui-là. C'est-à-dire que la Terre reste immobile, le Soleil tourne autour de la Terre avec toutes les planètes qui lui tournent autour. Donc, c'est un système qui est parfaitement correct, sauf que c'est le point de vue qui change. Donc, Brahe lui a dit, lui avait fait, s'était fait promettre par Kepler d'utiliser ce système et pas celui de Copernic pour interpréter les données. En réalité, Brahe s'est trompé aussi. Parce que, qu'est-ce qu'il avait poussé à faire ça? Brahe, en regardant les étoiles, il les voyait pas sous forme d'un point, il les voyait avec une certaine dimension. C'est un phénomène qui s'appelle la diffusion de la rétine, c'est-à-dire, si je vous montre une lumière de la taille d'un point, vous voyez quand même une petite tache. Donc, comme il y voyait très bien, il s'était dit, si je vois une dimension aux étoiles, au moins les plus brillantes, c'est qu'elles ne sont pas tellement loin. Et si elles ne sont pas tellement loin, quand la Terre bouge sur son orbite, moi je devrais voir une étoile qui bouge par rapport aux autres, je ne la vois pas, les étoiles restent toujours à la même place. Donc la Terre ne bouge pas. Donc il l'a immobilisé. C'est trop compliqué? Alors, quand on arrivera à parler de Galilée, on verra que ce chemin sera le chemin préféré par les jésuites. Pourquoi? Parce que il y avait le chemin de Ptolémée qui ne tenait plus debout, et il y avait le chemin de Copernic qui consistait à faire tourner la Terre, et à ce moment-là, on ne saurait plus expliquer pourquoi un caillou tombe par terre. Hein. Donc, les jésuites, qui étaient quand même des gens très compétents, c'était vraiment les docteurs de l'Église, c'est-à-dire, ils étudiaient tout, ils savaient tout, pour parer à toute hérésie éventuelle. Donc, ils avaient choisi ce chemin pour ne pas adopter le chemin copernicain. Et quand Galilée s'en aperçoit pendant ses échanges et ses litiges avec l'Église, il prend une rage folle, parce que il comprend que l'Église ne veut pas accepter le système copernicain. Et là, il perd complètement les pédales. Il fait des choses qu'on verra, mais vraiment qui le porteront à sa perte. Voilà. Donc, la précision de mesure de Brahe. Et c'est fini. Si vous voulez, je prends encore 2 minutes.